Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Fabian, 18 mars 2019. Nous roulons dans les vallées, nous quittons les villes, grimpons, les lieux sans sauvages. Le vert gagne, les roches prennent le dessus, le ciel s'épaissit et la voiture roule, froisse l'air, déplie les lacets de la route, déploie l'énergie qui trace vite. Des champs, des vignes, des rivières, des villages de petites maisons. Nous nous arrêtons pour acheter du pain et quelques fruits. Boris a marché dans ces lieux. Le 26 décembre 1984, une fois sorti de l'hôtel Alcazar à Los Angeles, au centre du Chili dans la province de Biobío, il n'a fait ensuite que marcher. Ce rapport au monde qu'il a tant aimé, cette grande intimité du corps avec la terre que retrouve l'humain dans la marche, il en avait besoin. Il semblait la chercher, cette activité, comme une pratique restaurative, nécessaire et constitutive de son être, de sa relation au vivant. Autant que l'étaient les mathématiques, la langue la plus directe et concrète dans laquelle Boris s'exprimait. Cette pratique mystérieuse de la marche lui était nécessaire. Dès qu'il pouvait, il était en partance, en exploration. Il dépliait la carte des pays, il filait. La marche dans les lieux pauvres en humains était ce qu'il semblait rechercher. J'imagine le repos qu'il trouvait dans cette pratique. Le repos de ne plus être juif lorsqu'il est assis sous le chêne, de ne plus être russe sur son radeau solitaire, de ne plus être un homme, de ne plus être qu'un souffle libre, doux, dans la tendresse brute de la vie qui l'entoure de toute sa masse.
Bonjour Donalou.
Bonjour.
Alors Dona, le public te connaît depuis 2011, depuis ton premier roman, L'Ambre Azur, qui avait d'ailleurs reçu le prix Sangor du premier roman francophone. Dans ce livre, tu nous dévoilais ton écriture singulière, une écriture faite d'une langue fluide, simple, droite, très poétique aussi. Une poésie d'ailleurs qu'on a retrouvée ensuite dans tes autres romans qui ont suivi. Mais on va d'abord commencer par parler de ton dernier roman, Boris 1985, qui est paru l'année dernière, en 2023, aux éditions Zoé. Un livre dans lequel tu parles à la première personne, puisque c'est un récit qui est construit comme un carnet de bord, le carnet de bord d'un voyage, ou plutôt d'une enquête, qui vise à faire la lumière sur les circonstances troubles de la disparition de ton grand-oncle, Boris Weisfeller, dont on a perdu la trace au Chili en 1985, alors qu'il était parti randonner en pleine nature pendant plusieurs semaines. Cet homme, tu ne l'as jamais connu, mais pour autant, il a toujours fait partie de ton histoire familiale. Jacqueline, ta grand-mère, te parlait, quand tu étais petite, de ce demi-frère disparu.
Oui, c'est ça, c'était un peu comme une sorte de légende ou d'histoire dont j'avais entendu parler, mais qui était un peu lointaine, mais à la fois qui revenait de temps en temps à savoir où c'en était, est-ce qu'on savait plus, est-ce qu'on avait découvert des choses. Voilà, après ça restait très lointain, mais c'est vrai qu'au moment, ça a été un peu le moment où Jacqueline... est morte, un peu avant son décès, j'ai commencé à me réintéresser à cette histoire, et un peu par un hasard, mais sûrement parce que je sentais aussi le départ de cette génération et de cette mémoire, et un peu l'urgence à m'y intéresser.
Et ce hasard, c'est Vino Del Mar, cette chanson qu'on a pu entendre tout à l'heure lorsque tu lisais un extrait de Boris 1985, une chanson qui a été composée en hommage à Marta Ugarte, une victime de la dictature de Pinochet. Cette chanson, elle fait ressurgir cette légende familiale. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu prends la décision d'aller à la rencontre de cette histoire et à la rencontre de cet homme. Alors cet homme, Boris Weisfeller, il est né en 1941 à Moscou. Enfant, il subit les violences liées à l'antisémitisme qui règne alors en URSS. Plus tard, il se passionne pour les mathématiques et après avoir franchi encore une fois les barrières liées à sa religion, il parvient à intégrer le corps universitaire. Quelques années passent et puis un jour, après avoir refusé de signer une lettre à l'encontre d'un collègue, il est mis au banc de l'université et il comprend que pour pouvoir poursuivre ses recherches en mathématiques, il ne lui reste que l'exil. Alors après quelques péripéties, il finit par gagner les États-Unis et s'installe à Boston, où il exerce comme professeur à l'université de Pennsylvanie. Ça, ce sont les faits. Mais quand on lit ton livre, en fait, on comprend que ta démarche, c'était aussi d'aller à la rencontre de l'homme qu'il était véritablement. On découvre un homme sensible, libre, poète, fasciné par les grands espaces. C'est ce que tu as cherché à savoir, non ? Qui il était, quel frère, quel ami, cela faisait partie de ton projet ?
Oui, il y avait... En fait, il y a un peu les deux élans, les deux enquêtes, c'est-à-dire d'aller vers cette disparition un peu enquêtée et de voir ce qu'il en est, de mieux comprendre les enjeux de sa disparition. J'avais ça en tête et... voire même de résoudre l'énigme, parce que il y a toujours cette... En tout cas, c'était un moteur aussi au départ. Et puis, assez vite, je me suis rendu compte que pour ça, c'était la première chose, c'était de comprendre, de le rencontrer lui, à travers tout ce que je pouvais un peu glaner d'informations auprès de sa sœur, de ses amis, des traces qu'il avait laissées. À la fois dans les esprits des personnes encore vivantes et puis aussi concrètement dans sa vie, ce qu'il a laissé derrière lui.
Oui, donc tu entreprends pour ça un grand voyage aux États-Unis avec tes filles. Mm-hmm. Tu les emmènes, c'est aussi mm-hmm. une histoire familiale que tu cherches à transmettre.
Oui, je crois qu'il y avait...
C'était important pour toi.
Mm-hmm. Une envie de transmission et puis c'est aussi... Avec mes filles, c'était d'abord la transmission du voyage, de se déplacer, de découvrir. Et puis aussi, même si elles avaient une sorte de, pas mal de distance avec ma quête de Boris, de ce grand-oncle, elles étaient plus dans la découverte des pays que dans vraiment voilà, cette plongée dans le passé. Mais je pense que malgré tout, les choses voilà, se transmettent aussi et qu'elles soient là, ça avait du sens.
De ce livre aussi pour toi, c'est qu'il a fallu du coup faire cohabiter cette histoire personnelle de Boris, donc le portrait que tu dresses de lui, et quand cette histoire personnelle justement rencontre tragiquement l'histoire politique du Chili, de ses heures les plus sombres sous la dictature du général Pinochet, puisque Boris c'était un habitué des expéditions en solitaire, il avait l'habitude de partir tout seul, de longues semaines, marcher. Il l'a fait en Sibérie. Il le faisait aussi beaucoup aux États-Unis où il résidait. Et c'est durant l'une de ses expéditions qu'il disparaît au Chili, alors qu'il était parti randonner pendant ses vacances. Et il disparaît à moins de 100 km de la Colonia Dignidad, une sorte d'enclave, d'enclave allemande, comme tu l'appelles, de camp de travail tenu par un ancien nazi, Paul Schäfer. Alors là, j'imagine un gros travail d'archives qui a été fait pour toi, parce que c'est une vraie, enfin il y a un vrai travail journalistique, c'est une démarche journalistique en fait.
Oui, sur toute la partie qui concerne le Chili, le contexte politique, entre les États-Unis et le Chili aussi, et puis ensuite cette secte allemande. Près de laquelle il a disparu, après pas juste à côté, mais disons il y a quand même vraiment une hypothèse qui est qu'il aurait pu être arrêté et amené là-bas, même si ça reste toujours une hypothèse parce qu'on n'a toujours pas de certitude. Mais c'est important pour moi d'aller vraiment jusqu'au bout de chaque piste et de creuser au maximum de ce que je pouvais trouver comme information et chercher, rencontrer. Donc c'était à la fois dans les archives, dans tous les documents que j'ai pu trouver, et puis à la fois sur place pendant ce voyage au Chili. En me rendant sur les lieux, en rencontrant les personnes qui ont fait des recherches aussi déjà sur toute cette histoire et en allant rencontrer des personnes qui ont vécu, qui s'en sont échappées, diverses. Mais c'est vrai que ça m'a fait faire une démarche plus journalistique que tout ce que j'ai pu faire par le passé. C'était une expérience particulière.
Oui, c'était une expérience particulière et une démarche aussi d'introspection. Cette histoire, elle résonne en toi. En fait, reviennent toujours des doutes, des questionnements sur les profondeurs de notre humanité, en fait. Hein, sur, elle questionne sans arrêt ce dont on pourrait être capable. Est-ce que voilà, ça nous renvoie à nous. Et d'ailleurs, tu le dis. Alors en plus, l'éditeur a choisi de le mettre. En avant, puisqu'on le trouve directement sous la couverture, cette citation. Tu dis « Je connais ce processus, j'aimerais que l'autre m'appartienne, j'aimerais contrôler l'autre, qu'il n'agisse pas ainsi, qu'il se conforme à mon désir, qu'il soit pour moi. Cela existe en moi. »
Oui, bah pour moi, depuis le début, je crois que j'avais vraiment conscience que c'était aller me confronter à une grande zone d'ombre à la fois familiale et de l'humanité, de ce que l'humain peut faire de plus sombre, parce que vraiment cette secte allemande, ça a été un lieu de torture pendant la dictature de Pinochet, et vraiment vraiment tout un système de domination qui est extrême et très très malsain, avec de la pédophilie institutionalisée, avec un contrôle des habitants total, des violences et beaucoup de morts sur place, enfin vraiment des atrocités. Et voilà, c'était aussi accepter de me confronter à cette noirceur là et de continuer à, enfin c'est un peu ce que je dis dans cette démarche, comment je continue à croire aussi en l'humanité en allant au plus près de cette réalité aussi. Ouais. C'était ça, il y avait une question là, pour moi qui n'était pas résolue au départ, qui était est-ce qu'on continue d'être debout en allant regarder ça en face. Et c'est vrai qu'assez vite, en étant sur place et en faisant cette démarche, moi je crois pas au fait de projeter le monstre à l'extérieur de moi et de dire tout ça c'est pas moi, ça c'est des méchants, pour moi ça ne fait que amplifier cette sorte de dualité et de conflit
Le déni,
qui traverse le monde, oui. Et c'est plus de reconnaître que j'ai aussi cette part-là en moi et et quel est le travail intérieur et concret à faire pour apaiser aussi ces conflits-là et pour pas mettre en acte cette violence, mais au contraire, trouver un autre chemin.
Ouais, c'est ça. Comment faire pour contenir cette part de nous-mêmes sans lui donner l'occasion un jour de s'exprimer, quoi. Et c'est ce qui en fait un récit très riche, hein, tous ces aspects de ton écriture.
Ce qui est particulier dans ce livre, c'est un peu, je pense que c'est ce qu'on a évoqué dans tout ça, c'est qu'il y a plusieurs trames qui se mêlent. Un portrait de ce grand-oncle de Boris, une sorte d'enquête journalistique plus sur le Chili, ce contexte géopolitique.
Il y a différentes temporalités aussi.
Voilà, il y a le passé de l'URSS, de la vie de Boris. Il y a le présent de mon voyage. Il y a aussi comme un journal de bord de ce voyage. Et puis ce côté introspectif et questionnement. Il y a des fois comme des petits poèmes. En ayant des retours maintenant, ça fait bientôt 2 ans qu'il est apparu. Je suis assez contente de sentir que ce côté très fragmenté et multidimensionnel ne perd pas les lecteurs et les lectrices, mais qu'on peut y plonger garder une cohérence et avancer.
Au contraire, c'est vraiment ce qui donne du corps, quoi. Enfin, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, vraiment, qui laissera une empreinte, quoi, de ton oncle, de ton grand-oncle, en tout cas.
Mais Une chose qui est importante pour moi, mais dont je me suis rendu compte, je pense, plutôt à la fin de l'écriture de Boris 1985, c'est que ce qui comptait, c'est justement un peu ce que tu dis, c'est que ce qu'il en reste, c'est que c'est Boris est très vivant. Enfin, il me semble que dans ce livre, on rencontre Boris et on rencontre plutôt l'homme vivant et... Mmh. Et finalement, je suis allée vers sa disparition et sa mort. Et ce qui est plus important dans le livre, c'est de le rendre un peu vivant.
Ben, c'est réussi. Je parlais d'emprunt tout à l'heure par pudeur, mais c'est vrai que dans ma tête, tu as réussi à le faire vivre. Donc, on y reviendra après. En plus, ton écriture, elle est toujours très attachée aux sensations, aux émotions. Et tu nous en parles de ces émotions qui t'ont traversé, de retourner sur les lieux, j'imagine que ça a dû être quelque chose d'assez vertigineux.
Oui, ça a été plein d'expériences assez intenses et oui, qui ont été vraiment importantes et qui ont eu besoin de se vivre dans une temporalité assez longue au final. Il y a eu une année qui a été l'année du voyage,
Tu n'as pas écrit.
J'ai pris des notes pendant ce voyage, j'ai un peu des traces, mais j'ai pas du tout commencé l'écriture tout de suite, parce qu'ensuite j'ai essayé d'aller en Russie et puis voilà, ça a un peu j'y suis allée, mais j'ai dû rentrer plus vite. Je me suis mis à l'écriture après, mais c'est vrai que j'ai eu besoin vraiment de laisser décanter, de maturer, de digérer tout ce qui avait été vécu. Et puis même dans l'écriture, ça a été un processus assez long et intense aussi. À la fois, c'était important pour moi je peux pas faire autrement que d'avoir cette implication émotionnelle, et à la fois il fallait trouver aussi à mettre une sorte de distance pour que ce soit possible de
de produire quelque chose, enfin, finalement
d'écrire,
de mettre en mots, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as eu un retour de, j'imagine Colga a découvert ce livre aussi?
Oui, mais il y a un mais, parce qu'elle ne parle pas le français, et donc pour l'instant elle l'a lu dans une sorte de traduction faite par un logiciel envers l'anglais, mais pas bien traduit. Mais bon, elle en a quand même eu vraiment connaissance, et puis ça, c'était important.
Puisque Olga, en fait, c'est le point de départ de ce livre, c'est la correspondance en fait que tu débutes avec elle. Quand te vient ce désir de tenter de faire la lumière sur la disparition de ton oncle.
Mais oui, c'est sa sœur, et elle a vraiment consacré sa vie une fois après la disparition de Boris à cette recherche, et sans pouvoir lâcher, quoi. Donc c'était vraiment la personne un peu pivot et de cette rencontre aussi.
Et il te fallait aussi sans doute son autorisation,
oui,
morale part. Un petit peu.
C'était donc c'était toujours un peu moi, c'était vraiment important pour moi le moment où elle a lu ce livre, même mal traduit, mais où elle a pu échanger, que c'était ça lui a fait du bien, et pour moi c'était
une forme d'apaisement.
Oui, qui est quand même une démarche, qui est que quelque part il soit vivant, qu'il y ait une trace de lui qui existe un peu plus forte par ce livre. C'est quelque chose qui l'a soutenu quand même.
Oui, sous une autre forme que dans des archives d'enquêtes policières ou de procès à journée.
C'est ça.
Encore un petit peu ensemble pour évoquer tes autres livres. Et hormis les récits en forme de quête auxquels tu nous avais déjà habitués avec L'Embrasure en 2011 et puis Les Printemps Sauvages en 2021, tous les deux aux éditions Zoé, tu as également publié d'autres romans comme Les Lignes de ta paume et L'Oragé au Mercure de France, et également déployé toujours aux éditions Zoé. Parmi les thèmes qui traversent tous ces livres, il y en a un central, majeur, comme un pouls qui bat à chaque page, à chaque phrase, presque. C'est celui de la nature sauvage, ou plus exactement du lien étroit qu'entretiennent tes personnages avec le vivant, que cela prenne la forme d'un rapport instinctif, brut, dans L'Embrasure, au départ en tout cas, ou plus émerveillé dans Les Printemps Sauvages. Tes héros vivent toujours au rythme de cette contemplation, de ce rapport charnel avec le sauvage. Pour reprendre tes mots, ils cherchent à inclure leur corps dans l'environnement. Alors la première question qu'on a envie de te poser, c'est d'où vient cet attrait pour la nature sauvage ? Est-ce que ce lien fusionnel avec la nature occupe une place centrale dans ta vie, comme elle l'occupe dans tes livres ?
Alors oui, d'où elle vient de mon enfance, c'est pas très original, mais d'avoir vraiment grandi près de la forêt et dans la Drôme. Dans une nature qui était très, très sauvage, avec vraiment des espaces de forêt et tout près de la maison, et donc beaucoup de liberté aussi pour être dehors. Et je pense que je suis marquée comme on est tous marqués par nos enfances, mais par ce rapport aux animaux, aux arbres, à l'extérieur. C'est toujours un... C'est un besoin qui est assez fondamental chez moi, qui reste très, très vivant de pouvoir aller dehors. Et puis dans des paysages aussi où la trace de l'homme n'est pas trop présente. En tout cas, j'ai ce besoin-là et c'est une ressource importante.
Alors c'est vrai que ton écriture, elle est très sensitive. C'est une écriture des corps qui s'unissent au vivant, puisqu'elle nous plonge en fait. C'est plus qu'une lecture, c'est une véritable expérience, une expérience sensorielle à travers l'observation fine de la beauté des êtres vivants, l'écoute attentive des souffles, l'expérience aussi des plaisirs charnels, entiers, puissants. Et toutes ces expériences, elles sont vécues pleinement, complètement, par tes personnages. Il y a presque quelque chose de l'émerveillement des premières fois que l'on retrouve d'ailleurs tout à fait dans la BD que tu as publiée avec Justine Saint-Lô, L'affaire Clitoris. Voilà, donc
je pense qu'effectivement il y a quelque chose dans mon écriture de fondamentalement relié au corps et à l'expérience sensorielle d'être vivant, et qui est oui, je crois qu'il est vraiment assez constante. En tout cas, ça, c'est vraiment un fondement un peu de mon rapport à l'écriture, qu'elle soit ancrée dans une sensorialité, un être au monde, qu'elle interroge aussi notre être au monde, et elle passe, c'est une aventure physique.
Une aventure physique, et qui passe aussi par le fait de prendre le temps de contempler, d'attendre, de patienter. Il y a un passage dans Les Printemps Sauvages qui dit « Il n'y a rien à décrire dans ce moment, et c'est pour cette raison que je tiens à le dire, car on ne peut omettre les rien à dire, les sans événements, les trouées passives. Elles donnent des clés qui ouvrent sur des portes que la curiosité nous invite à pousser. » Alors est-ce que selon toi, cette patience, cette contemplation, elle doit absolument faire partie de nos vies.
Oui, je crois que qu'on a besoin de laisser de la place aussi au rien, au vide, et qu'on est particulièrement, enfin de plus en plus peut-être dans des sociétés où il y a peu de place pour cette contemplation et ce rien à dire et rien à faire. C'est pas valorisé en tout cas. C'est pas même peut-être que la contemplation peut être mais c'est presque tout devient un peu c'est valorisé comme faire quelque chose, quoi. Alors et c'est, je pense que dans ce que je voulais dire par exemple dans ce passage des Printemps Sauvages, et ce qui est important pour moi dans l'écriture aussi, c'est une attention aux détails, aux minuscules, un peu à c'est rien à dire aussi, et à c'est... Et je trouve que c'est aussi le rôle en tout cas un pouvoir de l'écriture et une puissance d'évocation, de faire exister des petites choses et qui sont peut-être l'essentiel aussi, et de prendre le temps d'un peu comme si on faisait le tour des ombres et des vides et des creux. Et l'écriture, c'est toujours partir aussi avec des questions, en tout cas pour moi, c'est toujours... un mouvement d'interrogation.
il y a un thème présent dans tes histoires qui soulève beaucoup d'interrogations, c'est celui de l'absence, c'est celui du vide laissé par les personnes disparues, les parents, les frères, les amis. Est-ce que finalement, ce lien à la nature, tu parlais de besoin tout à l'heure, il ne s'impose pas parfois comme une nécessité, comme une recherche de sens, comme un besoin de s'inscrire dans une filiation plus grande, comme pour retisser des liens rompus d'une filiation familiale ou fraternelle ?
Vaste question, mais intéressante. Mais oui, je pense qu'il y a de ça, il y a... dans la nature et le fait de se penser aussi comme justement faisant totalement partie de cette nature parce que c'est pas pour moi, il n'y a pas la nature et les humains, et je crois que je suis assez que ça me tient à cœur de que dans mes romans ça puisse exister comme plutôt une inclusion de ce tout vivant qui serait une possibilité d'unité et de lien de liens plus grands, enfin de liens qui dépassent notre histoire humaine, notre corps humain, mais qui est voilà, comme un tout dont on fait partie et dans lequel il n'y a pas de séparation. Et peut-être qu'effectivement cette quête tout le temps de mes personnages et ce vécu dans mes romans d'unité avec tous ces vivants, ou en tout cas c'est peut-être pour réparer cette absence que peut apporter, qu'amène la mort, la disparition des êtres chers, et comme si cette reliance à tous les vivants permettait d'englober aussi la mort, enfin et qu'elle ne soit plus juste une absence et une séparation.
Quand on parcourt tes livres, on est vraiment en présence d'êtres humains qui ne se bercent pas d'illusions de domination, mais qui font état tranquillement, qui acceptent leur condition de partie d'un plus grand tout, comme tu dis. Il n'y a pas de concurrence. Donc, cette constatation, elle se fait d'abord physiquement, puisque tes personnages cohabitent avec les êtres vivants. Elle se fait aussi par la vulnérabilité des corps. Est-ce que cette humilité, elle est au centre de ta démarche d'autrice? C'est aussi une humilité qu'on retrouve beaucoup dans Boris 1985. Il y a des passages très touchants où tu retranscris ces notes de voyage qui ont d'abord été traduites par sa sœur Olga du cyrillique à l'anglais. Et donc toi, tu fais cette étape suivante de les transcrire, de les traduire de l'anglais au français. Et on retrouve cette même humilité, ce même rapport à la nature comme une nécessité un petit peu de... Alors, est-ce que tu penses que l'humilité, justement, voilà, elle est comme pour elle était pour ton oncle, elle faisait partie de sa démarche de scientifique. Est-ce qu'elle fait aussi partie de ta démarche d'autrice ?
Oui, il y a de ça. Il y a une quête d'humilité, et ça résonne aussi ce mot de vulnérabilité que tu as employé. Et je crois que dans cette... quand je disais, pour moi, l'écriture, elle est vraiment, elle part du corps. Ça va aussi dans ce même sens du sentir, en fait, et d'accepter de sentir et de plonger dans ce qu'on sent en tant qu'humain, et pas de vouloir le dominer ou le comprendre ou l'analyser. Mais c'est vraiment un rapport au sentir, à accepter, à ouvrir. Un espace pour sentir, et l'écriture est une démarche de nommer ce sentir, et donc de pouvoir d'encourager, peut-être de s'encourager entre vivants à oser sentir, à oser être vulnérable et à rejoindre cette humilité, humilité qui vient, enfin on sait que ça vient du mot humus, et ça fait sens aussi avec ce rapport à s'ancrer dans cette nature dont on fait partie. Donc, comme un... Oui, comme un rappel à la fois à une sorte d'expérience en tant que corps vivant, d'être une toute petite d'être une toute petite chose dans ce grand tout qui fait vivre beaucoup de vulnérabilité, et à la fois le fait de ne pas s'extraire de ce tout et de pas jouer un jeu de croire qu'il y a quelque chose à dominer et à quelque chose dont on doit se couper permet finalement de rejoindre aussi un infini. Enfin, donc c'est les deux qui se rassemblent.
Alors j'entends que tu emploies les verbes accepter, le mot infini. C'est vrai que cette humilité face à la nature, elle est face à quelque chose de plus grand. Je trouve qu'elle n'est pas, dans tes livres, elle n'est pas seulement palpable dans les corps, mais elle l'est aussi dans les intentions, comme tu viens de l'expliquer. Toi-même, tu acceptes de perdre le contrôle, de te laisser guider à un moment dont, alors sans révéler le contenu du livre, tes plans changent d'emblée dans Boris 1985. Et tu dis, il est apparemment l'heure de ressentir de la gratitude dans la dépendance, de la gratitude dans la vulnérabilité. Donc, tu te laisses comme ça porter. Et ce lâcher-prise, on le retrouve aussi dans les histoires de tes personnages, dans l'embrasure, ce jeune homme qui accepte justement de lâcher prise à un moment de l'histoire pour aller vers un inconnu. Cette jeune femme dans Les Printemps sauvages qui se jette aussi dans un voyage vers l'inconnu, en l'occurrence vers un inconnu. Elle dit, partir, c'est simple, tu lèves le menton et tu traces une ligne. Alors ce lâcher-prise, cet abandon pas au destin, mais plutôt aux circonstances, est-ce que c'est le prix de la liberté?
Oui, sinon on ne vit que des habitudes, du passé, de la répétition et peut-être du confort, mais d'un confort qui enferme aussi. Et oui, pour moi, c'est vraiment la seule porte, la seule possibilité de rester vivant et libre, c'est cette ouverture à l'inconnu, au nouveau, à ce qui nous... Et cet inconnu, ce nouveau, il vient par souvent, effectivement, par l'inconfort et par ce qu'on n'avait pas prévu. Et c'est en pouvant s'ouvrir, enfin, je pense que plus on expérimente qu'on peut faire avec, et on revient à cette humilité que justement, on n'a pas le contrôle à part de c'est pas d'accepter en baissant l'échine, mais juste de faire avec ce qui est et puis d'être avec ce qui est. Et je crois pas que j'ai des personnages qui sont plutôt aussi des oui très libres et très avec une volonté une singularité, affirmer en tout cas leur singularité.
De ta pratique d'écriture, est-ce que tu as alors puisqu'on parlait de liberté, est-ce que tu t'imposes dans l'exercice de l'écriture une certaine forme de contrainte? Est-ce que tu as des rituels quand tu te mets au travail?
Pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de rituels ou de routines sur l'écriture. Par contre, j'ai de la discipline, sinon j'écrirais pas. Parce que, enfin, mais une forme de discipline pour moi qui est plutôt dans veiller à de la disponibilité, à du temps pour l'écriture, donc protéger des espaces un peu dans ma vie pour que ce soit possible, et puis me mettre à ma table et ouvrir quand j'ai voilà, quand il y a un livre qui est en cours d'écriture, c'est s'y remettre régulièrement, mais c'est aussi, je sais que je peux pas, je vais pas imposer les temps où l'écriture vient, en tout cas les moments vraiment d'écriture où ça vient, où ça coule, je vais me mettre à ma table pour voir si c'est le moment, et puis là je vais assez vite sentir, ah oui, tiens, là, voilà, c'est un moment d'écriture, ou alors c'est pas un moment d'écriture, et dans ces cas-là, soit... Je relis et je retravaille, ce qui est une grosse, grosse partie finalement du travail, parce que le temps d'écriture spontanée, c'est pas le plus grand temps de l'écriture. Il y a tellement à relire, à retravailler, que c'est ça qui prend aussi plus de temps. Et ça peut plus se programmer. Si je me dis demain j'ai une matinée pour faire ça, en général, dans tous les cas, ça marche. Mais par contre, si je me dis demain j'ai une matinée pour écrire, pour moi, ça marche pas forcément. Et si je sens que c'est pas le moment d'aller faire autre chose et de savoir qu'en même temps, ça... Je sais que ça travaille au fond, que c'est toujours là, que je laisse venir, et puis jusqu'à ce que ce soit le moment.
Et est-ce qu'il y a des choses que tu trouves plus difficiles à écrire que d'autres ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu butes parfois ?
Oui, il y a tout le temps des choses sur lesquelles je bute. Mais alors, pour l'écriture de Boris, ça a été par exemple particulièrement difficile. De trouver mon écriture, le jeu en tant que Duna et plus en tant que narratrice ou personnage de roman. Donc j'ai beaucoup tâtonné, cherché, c'était un défi quoi. Mais là dans mon roman actuellement, j'ai toujours aussi des choses sur lesquelles je bute. Ça fait partie aussi du moteur de l'écriture, de buter, puis de s'arrêter, puis de chercher, puis de laisser venir.
Alors tu parles de ton roman actuellement, tu parles d'un projet, d'un roman en cours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ce que je peux en dire, que la nature sera toujours très omniprésente. Il y a en tout cas un personnage principal de femme très important. Et je m'amuse bien avec plus d'histoires, de personnages, de un peu une histoire à tiroir, suivant les rencontres qu'elle fait. Voilà, je ne peux pas en dire vraiment encore beaucoup, mais ça fait déjà un moment que je travaille dessus. Il y a eu une première phase d'écriture et en fait, après, j'ai tout repris à zéro. Donc voilà, mais ça fait du bien aussi d'être dans un projet au long cours et de ne pas me sentir de pression particulière.
Qui ont marqué ton expérience de lectrice quand tu étais enfant ou adolescente et qui auraient suscité en toi une vocation d'écrivain ?
Alors c'est sûr qu'il y a des livres qui m'ont marqué. Après, de savoir est-ce qu'ils ont suscité une vocation d'écrivain, d'écriture, je ne sais pas. Mais oui, il y a eu des expériences de lecture assez jeunes de Ramu, un auteur suisse qui a une écriture aussi qui est très proche de la terre, des paysans, avec une écriture aussi très particulière, singulière, qui m'avait assez impressionnée. Et puis, après, je sais pas en quel sens ça a pu former une vocation, mais je sais qu'après, il y a eu la découverte de Christian Bobin, qui m'a aussi beaucoup... touchée quand j'étais toute jeune et de réaliser qu'on pouvait nommer des choses aussi intérieures. J'avais l'impression qu'il nommait des choses que je pouvais vivre intérieurement très très secrètes ou très 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 intimes. Ça m'a assez fascinée et donné envie, je pense.
Associer ton œuvre à un mot, lequel ce serait ?
Ce qui me vient, c'est le mot arbre. Parce qu'il y a tout ce... Oui, le mot arbre, les racines, en même temps que le déploiement vers le ciel, en rapport terre et ciel, et lenteur, et arborescence, parce que je suis aussi un peu un côté touche-à-tout, et j'aime bien me renouveler, chercher ailleurs, chercher des nouvelles formes. Donc ce côté arborescence aussi. Et puis le bois de l'arbre, après on peut en faire tellement de choses. Le sculpter, se chauffer avec. Enfin, il y a tout un... Oui, tout ce rapport.
question que la dernière question en général qui clôt les entretiens, c'est si tu pouvais essayer d'associer une musique à tes écrits. Est-ce que tu en trouverais une?
Le silence.
Eh bien, merci beaucoup, Dounalou, de m'avoir reçu pour cet entretien.
Avec plaisir, merci d'être venu jusqu'ici, dans la campagne nantaise.
Mais c'est vrai que dès que je suis sortie de la voiture, le silence m'a frappée. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta